Les contes du soir. Nouvelle lune de printemps, et voici le premier conte d'une nouvelle série consacrée aux cités disparues, l'Atlantide. Connaissez-vous son histoire? Une histoire de continents, de disparitions, de dieux et de fléaux de la nuit des temps. Quand il arrivait aux marins du temps jadis de naviguer vers l'ouest par gros temps, il croyait entendre les dieux gronder toujours « Atlante, il vous faut périr !» Et les marins se remémoraient alors à voix basse l'histoire de l'Atlantide qu'un cataclysme sans précédent avait englouti dans la mer. Tout s'était hanté. Qui sait si, aujourd'hui encore, il n'y aurait pas un bouleversement? Certains prétendaient que cette île Atlantide, grande comme un continent, était située au large du détroit de Gibraltar, que les anciens nommaient les colonnes d'Hercule. Ils avaient comme preuve le rocher de Cadix qui, selon eux, était un des débris de l'Atlantide, comme le pic de Tenerife était un des sommets de la chaîne des Atlantes immergés que prolongeaient les îles des Açores et du Cap-Vert vers le plateau des Bermudes. Au pied de ce plateau, dans les profondeurs de l'océan, n'avait-on pas découvert une chaussée pavée et des murs de marbre de 10 mètres de large? D'autres allaient jusqu'à affirmer que la mer des Sargasses, cette mer impraticable aux navigateurs à cause du limon et des bas-fonds, n'était rien d'autre que les restes du continent submergé. L'extraordinaire est qu'après tant de siècles, nous en sommes encore à nous demander où pouvait bien se placer l'île légendaire et si elle a vraiment existé. Nous savons qu'elle a eu le privilège de faire rêver tous les grands navigateurs, car tous, dans le fond de leur cœur, désiraient percer son mystère. La brume de l'ignorance se leva pour eux sur d'autres continents, pas sur celui-là. Mais nous avons toujours plaisir à entendre son histoire. C'est Platon qui, le premier, nous la conta, et Platon lui-même, ou Socrate à qui il prête la parole, la tenait de Critias qui lui-même la tenait de Solon, le plus sage des sept sages de la Grèce antique. C'est une vieille, très vieille histoire, en vérité. Solon, qui n'était pas seulement un sage, mais aussi un noble poète et qui aimait voyager, s'en était donc allé visiter l'Égypte. Et là, il apprit une chose extraordinaire. Sachez qu'il s'attardait dans la région du Delta, et plus exactement à Saïs, où régnait alors Amasis, le roi de la 26e dynastie, c'était vers l'an 569 avant Jésus-Christ. La ville de Saïs avait été fondée par la déesse Neith, qui, en Grèce, se nommait Athéna. Les habitants de Saïs éprouvaient donc une très grande amitié pour ceux d'Athènes, qu'ils considéraient en quelque sorte comme leurs parents, et il est facile de comprendre toutes les attentions qu'ils eurent pour leur hôte et l'étrange révélation que lui fit l'un d'eux. Il s'agissait d'un vieux prêtre égyptien qui dit à Solon « Vous autres, Grecs, vous êtes toujours des enfants, un Grec n'est jamais vieux. » « Explique-toi, » répondit Solon en souriant. « Vous n'avez pas de tradition et vos opinions ne sont fondées que sur le présent. La raison en est que les hommes ont été détruits en très grand nombre et ils le seront encore de beaucoup de manières. Mais c'est par le feu et par l'eau qu'eurent lieu les plus grandes catastrophes. Écoutez-moi, Solon. Il y a 9000 ans. Nos livres égyptiens racontent comment Athènes a résisté à des armées puissantes et innombrables. Parties de la mer Atlantique, elles envahirent presque en même temps l'Europe et l'Asie. Car alors, cette mer pouvait se traverser facilement. À l'endroit que les Grecs nomment les colonnes d'Hercule, était une île, l'île Atlantide, plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Les voyageurs de cette époque pouvaient aisément se rendre de cette île sur d'autres îles et jusqu'au pays qui était sur le rivage opposé du continent. Or, dans l'île Atlantide, des rois avaient formé un empire immense qui s'étendait non seulement sur l'île entière, mais aussi sur beaucoup d'autres îles et sur d'autres larges parties du continent. De plus, ils dominaient les pays qui sont nôtres actuellement, puisque d'un côté, ils avaient conquis la Libye et porté ainsi leurs limites jusqu'à l'Égypte, et que de l'autre, ils avaient occupé la partie de l'Europe située à l'ouest de la mer Tyrrhénéenne. Un jour, cette puissance gigantesque et formidable, et à qui, jusque-là, tout avait réussi, ayant concentré de très grandes forces, se jeta impétueusement sur l'Égypte d'abord, puis sur la Grèce, ton pays, Solon, et enfin sur tous ceux qui sont en deçà des colonnes d'Hercule. Qui aurait pu croire que les Atlantes ne seraient pas invincibles? Mais il y avait Athènes. Athènes, qui mit à se défendre tant de génie et tant de courage, qu'elle se montra plus grande que les autres villes et plus grande que les autres nations. Jamais ses armes ne brillèrent avec un aussi vif éclat. Tantôt à la tête du peuple grec, tantôt seule et reconduite par l'abandon des cités voisines à ses propres forces, elle se trouva un temps à toute extrémité. Mais elle se releva si vaillamment qu'elle obtint enfin la victoire, qu'elle alla même jusqu'à envahir l'île Atlantide. Ses alliés lui surent alors gré de leur avoir rendu le bien précieux de la liberté. Hélas, peu de temps après, dans l'île Atlantide, un terrible tremblement de terre, joint à un déluge provoqué par une pluie torrentielle et incessante d'un jour et d'une nuit, entr'ouvrit la terre, qui engloutit d'un seul coup tous les guerriers athéniens et tous les habitants de l'Atlantide. L'île elle-même disparut dans les flots déchaînés. Voilà pourquoi, ajouta le vieux prêtre égyptien, depuis ce temps, l'océan est devenu impraticable aux navigateurs à cause du limon et des bas-fonds, débris de l'île submergée. Or, ce terrible cataclysme avait été voulu par les dieux. Sachez en effet que les dieux, au jour du partage du monde, avaient donné l'Atlantide à Poséidon, dieu de la mer. Tandis que chacun organisait son domaine, Poséidon visitait le sien, qui était extrêmement grand, et de nature à allumer en lui le désir d'en faire un lieu de rêve. Au centre de l'île se trouvait une plaine si fertile qu'on n'en verra jamais de pareille. Une montagne s'élevait non loin, pas très haute, couverte d'une forêt luxuriante que des animaux rôdeurs et agiles habitaient, et d'où la vue s'étendait jusqu'à la mer qui ne cessait d'avancer ses vagues vers le rivage. Par sa puissance divine, Poséidon n'eut aucun mal à faire jaillir du sol deux sources d'eau, l'une chaude, l'autre froide, et permit ainsi que poussât toute l'année une végétation abondante. Ses investigations dans l'île l'amenèrent un jour tout au sommet de la montagne. Là demeurait sa femme Leucippe, et Vénor, un des hommes que la terre avait autrefois engendré. Ils avaient une fille, Clito. Accoudée à une fenêtre, entre le ciel bleu et les arbres en fleurs, Clito s'occupait à découvrir les nouveaux embellissements que Poséidon apportait à l'île. Par exemple, ces arbres ligneux qui offraient à la fois de la boisson, de la nourriture et des parfums, ces fruits si délicieux sous leurs écorces et tant d'autres merveilles quand son regard croisa celui du dieu. Elle poussa un léger cri, mais Poséidon, en se présentant, tint à la rassurer. Séduit déjà par sa beauté fière, ses nattes brunes et ses yeux clairs d'adolescente. Il s'assit près d'elle, la contempla un instant d'un air méditatif, puis il rit doucement du succès de ses travaux dans l'île, car Clito le félicita tout de suite et chaleureusement. Peu de temps après cette rencontre, Poséidon l'épousait. Tout en surveillant l'île du coin de l'œil, ne l'avait-il point protégée grâce à des enceintes de mer et de terre qui la rendaient inaccessible aux hommes, Poséidon vécut heureux avec Clito, dont il eut 10 fils. L'aîné fut Atlas, Atlas devint le roi de l'île, que tout naturellement il nomma Atlantide. De même, il nomma Atlantique la mer qui l'entourait. Son frère jumeau, Gadir, reçut en partage l'extrémité de l'île. Il appela le pays Gadririque. Quant aux autres frères, ce furent des rois vassaux, heureux, qui commandaient de vastes portions de territoire et beaucoup d'hommes. Car si Poséidon et Clito avaient vécu retirés de cette île enchanteresse, où la mer luisait à travers les arbres et où les oiseaux piaillaient avec animation, ses fils et leurs descendants, dont l'aîné était toujours le roi, engagèrent quantité d'hommes à peupler leur domaine. Rien ne fut plus facile. L'Atlantide regorgeait de richesses à tel point qu'on n'en avait jamais vu de semblable, en si grande abondance et qu'on n'en verra jamais plus. L'air était lourd du parfum de milliers de fleurs et plein de doux murmures des insectes. On y trouvait des lacs remplis de poissons, des prairies capables de nourrir quantité de bêtes sauvages et domestiques, des forêts épaisses où courait le gibier et même de nombreux éléphants, le plus vorace des animaux. Les métaux durs et malléables, l'or, suffiraient à la satisfaction des intéressés, surtout celui dont nous connaissons que le nom, ce métal mystérieux, l'oricalque, au reflet de feu. On l'extrayait de la terre en maintes endroits de l'île. Aussi, les rois atlantes n'eurent pas de mal à faire recouvrir d'airain l'enceinte extérieure de l'île, de plaques d'étain l'enceinte intérieure et enfin d'origalques ces hautes murailles de temples qui flamboyaient au ciel. Ce temple était, bien sûr, consacré à Poséidon et à Clito. Plus encore que la somptuosité du rempart d'or qui l'entourait et que celle des pavés et des colonnes d'ivoire, la magnificence des statues d'or resplendissait et notamment le dieu debout sur son char conduisant 10 coursiers ailés, si grands que sa tête touchait la très haute voûte du temple. 100 Néréides assises sur des dauphins l'entouraient. À l'extérieur se dressaient des statues d'or de toutes les reines et de tous les rois descendants des 10 enfants de Poséidon. Dans ce temple, qui avait en son aspect quelque chose de barbare, de singulières cérémonies se déroulaient. Tous les ans, les Atlantes venus des 10 provinces de l'Empire offraient au dieu Poséidon les prémices des fruits de la terre. Quant aux 10 rois, jamais ils ne manquèrent de s'y réunir tous les 5 ou 6 ans. Là, ils faisaient leur métier de roi, c'est-à-dire qu'ils s'efforçaient de faire le tri des affaires publiques, ayant ainsi une obscure complicité avec Poséidon des lois desquelles ils s'inspiraient. Celles-ci étaient gravées dans l'oricalque sur une colonne où se mêlaient à elles les anathèmes les plus terribles contre ceux qui les violeraient. Mais qui moins que les rois aurait voulu être parjure. Pour se prêter mutuellement serment de fidélité, ils suivaient un rite rigoureux. C'était alors que des taureaux sauvages étaient lâchés dans l'enceinte, tandis que les rois priaient Poséidon de choisir la victime qui lui serait agréable, l'aîné d'entre eux, armé seulement d'épieux de bois et de lacets de cordes, se mettait en chasse. Un certain courage était nécessaire pour acculer l'animal dans un coin et, après l'avoir ligoté pour l'égorger, non sans dextérité, sur la fameuse colonne d'origalque. Ce sacrifice achevé selon les lois, le sang du taureau était versé dans une coupe et ses membres jetés au feu. Ensuite, on purifiait la colonne. Enfin, puisant le sang à l'aide de coupelles d'or, on le répandait en partie dans le feu qui continuait à brûler. Les rois eux-mêmes en buvaient, ils n'oublieraient jamais de ranger la coupe dans le sanctuaire du dieu. Quand l'ombre de la nuit ne permettait plus de distinguer les visages et que le rougeoiement du feu s'éteignait, les 10 rois, revêtus de très belles robes azurées, comme la profondeur des eaux marines, s'asseyaient tout autour des cendres du sacrifice. Ils sentaient passer à travers leurs robes le vent du large. Pas une lueur ne brillait. Ils se mettaient alors à délibérer sur le sort des coupables. Ils avaient droit de vie et de mort sur tous les sujets. Ces débats duraient jusqu'à l'aube. Puis, au jugement rendu, les rois les inscrivaient sur une plaque d'or qu'ils suspendaient au mur du temple avec leurs robes. C'est ainsi qu'ils témoignaient de leur passage dans le lieu saint. Des années et des années passèrent, apportant encore des améliorations considérables dans l'existence des Atlantes. Cependant, entre les mains des 10 rois, le gouvernement de l'Atlantide devint peu à peu un instrument moins bien réglé, moins adapté aux besoins de l'île prestigieuse. Leurs vertus s'affaiblirent alors qu'il se maria avec les filles des hommes, et l'on sait que les hommes ont beaucoup de défauts et peu de sagesse. Dès lors, il fut difficile de trouver en eux le caractère exemplaire du dieu Poséidon, leur ancêtre. Bientôt, on parla de violence et de ruse. Dans les villes, aux maisons étroites, pressées les unes contre les autres, la magie de l'île n'agissait plus. Chaque jour amenait de nouveaux sujets de discorde, car la justice ne régnait plus dans ses murs, pas davantage que dans les ports où s'abritaient maintenant les vaisseaux venus de tout pays, ni même dans la somptueuse résidence des rois entourée des casernes de la garde royale. Les rois devenaient de vrais hommes, et qui plus est, des hommes comblés qui en voulaient toujours davantage. Pourtant, quiconque d'étranger arrivé dans l'île était toujours ébloui par sa splendeur. L'ordre semblait encore régner quand, un jour, les descendants de Poséidon, par orgueil et par cupidité, voulurent enlever à leurs voisins leurs terres et leur souveraineté. Pour cela, ils leur déclarèrent la guerre. Ce fut alors que Zeus, le maître des dieux, le suprême régulateur de l'univers, voyant se dépraver ainsi une race si noble, se montra tellement fâché qu'il voulut la punir. Il convoqua donc le conseil des dieux dans l'Olympe et celui-ci, après délibération, décida de faire disparaître l'île Atlantide, coupable de trop d'orgueil et de trop d'ambition pour subsister. Un vent impétueux fut déclenché, que suivit de près un tremblement de terre. Un déluge d'eau acheva de tout anéantir. Lorsque les ténèbres de cette nuit atroce se dissipèrent, les dieux vengeurs criaient encore « Atlante, il vous faut périr !» Mais plus aucune voix ne leur répondit. Prochain conte le 6 avril 2023 pour une pleine lune de printemps. Nous écouterons un deuxième conte consacré aux légendes des cités disparues, Sodome et Gomorre. D'ici là, pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me soutenir sur la page Tipeee des Contes du Soir, où vous attend du contenu exclusif avec des textes érotiques. Tous les liens sont dans la description. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.